qu'il ne faudrait pas.
La bande à Bébert, vous êtes sur Zoom Écologie, fréquence Paris Pluriel 106.3 sur la bande FM avec la bande à Bébert. Donc ce soir, c'est Paralède qui présente, c'est Flo Flo. Et donc ce soir, nous sommes accompagnés alors, de la bande à Bébert. Généralement, on est sur le dernier jeudi du mois, mais cette fois-ci, on est sur le deuxième. Ça tombe bien, c'est divisé par deux, généralement, on est sur le quatrième. En bref, je dis n'importe quoi. Alors ce soir, on est avec Clément.
Bonsoir tout le monde.
On est avec Khaled qui a été, je précise, en retard au travail pour nous faire la bande-son. Bravo oui, Khaled.
Je vous présente mes excuses pour mon retard.
On est avec Élise.
Salut à tous.
Et derrière la bulle, dans le nouveau local, puisque c'est la première émission dans le nouvel, de nouveau local de Radio Fréquence Paris Pluriel. On a Rebecca et Cyril derrière. Bravo.
Merci la technique.
Ok, alors ce soir, en fait, je vous présente un petit peu le menu. Alors, le menu particulièrement alimentaire, tiens, c'est étonnant. Donc, en apéro, qu'est-ce qu'on va faire ? En apéro, c'est l'apéro transgénique. On l'avait déjà fait celui-là, mais il est pas mal du tout. Donc, on se le remet pour une fois. C'est Khaled un petit peu et Élise qui nous présenteront un petit peu ça. Et on va enchaîner aussi avec la relocalisation alimentaire. C'est ça de choisir des mots aussi complexes, on n'arrive pas à les prononcer à la radio. Et on finira aussi par un dessert direct de Boulogne, puisque c'est le dessert déboulonné. Et on vous expliquera un petit peu ce que c'est. Alors là, on enchaîne directement. Khaled, Élise, il me semble que vous êtes des envoyés très très spéciaux, financés alors par la bande à Bébert, mais pas directement, mais par la fondation Round Down Ready. Et donc, vous allez nous dire un petit peu à quoi étaient les subventions dédiées pour les envoyés très très spéciaux, des taupes très très spéciaux même.
Oui, merci Flo pour ta présentation. Tu as bien introduit la chose. Nous avons donc été financés pour cet envoyé, en tant qu'envoyé très 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 spécial de la bande à Bébert, parce que la dernière fois on n'a pas eu beaucoup d'argent. Du coup, on est allé jusqu'à Versailles cette fois-ci.
Zone 4-5 même. Disons, vous faites péter le budget là.
Voilà quoi. Et on a même réussi à avoir quelques enregistrements en tant que taupe de Rundown Ready. Et du coup, on va vous faire un petit résumé de ce qu'on a vécu. Et puis, en plus, ça sera des infos pour un Down Ready, en plus de notre rapport qu'on aura fait.
Alors, dans un premier temps, en fait, vous allez un petit peu recontextualiser, là, parce que Random Ready, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ces faucheurs ? Faucheurs de quoi ?
Alors, les faucheurs d'OGM, en fait, c'est donc, on parle bien d'OGM, parce que c'est un apéro transgénique. Du coup, donc Rundown Ready, c'est une multinationale qui a plein de pognon et qui nous a donc généreusement donné cet argent pour aller enquêter sur ce procès. Et donc, dans notre enquête, notre introduction a commencé à expliquer qui étaient donc les faucheurs. Donc, ça a commencé en fait en 96 avec l'apparition. Enfin, il y a eu les biotechnologies. Il y a eu les premières campagnes de communication des biotechnologies. Et du coup, il y a eu des publicités pour ce genre de choses. Et la Confédération paysanne en 96 s'est mobilisée pour critiquer cette nouvelle technologie qui arrive et qui pose quelques problèmes. Donc du coup, on en reparlera dans les 10 à 15 minutes qui viennent. Et en gros, en 97, la Confédération paysanne a commencé à faire ce qu'on appelle donc un fauchage d'OGM. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça quand on éclate un épi de maïs. Et donc, c'est un fauchage qui se fait avec les mains, je tiens à le dire. Donc, c'est pour ça que ça casse. Et du coup, il y a eu le premier fauchage qui a été fait par la Confédération paysanne. Et ça s'est enchaîné encore après. Et ils ont eu plein de condamnations, dont le porte-parole très connu, l'ex-porte-parole de la Confédération paysanne, José Bové. Pas besoin de trop en rajouter là-dessus. Et après ça, donc en 2003... Jean-Baptiste Liboubon, qui a vu la Confédération paysanne qui payait pas mal de choses, et c'est quand même un syndicat par rapport à ses procès. Donc du coup, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, pendant le rassemblement de l'Arzac, mettre en place le collectif des faucheurs volontaires. Donc du coup, c'est un collectif, c'est plus une organisation comme la Confédération paysanne. Et du coup, ils ont fondé le collectif des faucheurs volontaires. Donc Jean-Baptiste Liboubon, que nous avons rencontré pendant ces 3 jours... qui a expliqué en gros qu'au début, il s'attendait, quand même au Larzac, en 2003, il y avait un rassemblement où il y a eu des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes.
Au moins.
Oui, je crois que c'était 100 000 personnes.
Sans compter les moutons, les chèvres, tout ça.
Oui, sans parler des moutons et des chèvres. Et du coup, il s'était dit, il y en aura au moins 4 000 qui vont se lancer dans l'aventure. En fait, il n'y en a eu que 400. Mais 400, c'était déjà énorme, se lancer dans l'aventure donc des faucheurs volontaires. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des citoyens qui décident individuellement et en même temps collectivement avec la somme des individus de, de faire du fauchage d'OGM. Et donc voilà, avec les principes de désobéissance civile. En gros, le fauchage d'OGM, enfin les faucheurs volontaires ont une charte qui est consultable sur Monde Solidaire. Donc vous tapez Monde Solidaire sur un moteur de recherche, vous pouvez les retrouver. Et donc il y a une première partie qui est sur une profonde signification de ce que c'est la désobéissance civile. Élise, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu des substances civiles? Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est un mode d'action qui est non violent. Et donc, il consiste à en fait désobéir une loi parce qu'elle nous semble injuste pour faire une action qui, elle, nous paraît juste. Voilà, en gros.
Merci, Élise, pour ces précisions. Donc, justement, cette désobéissance, c'est une désobéissance à la loi qui est civile, en ce sens qu'elle est civilisée, c'est-à-dire qu'elle est non-violente. Et donc, du coup, dans cette charte, ils expliquent aussi, en première partie, donc, la mise en œuvre, les limites, les consignes, les attitudes donc, par rapport à ce type d'action, comme par exemple qu'elle doit être faite de plein jour à visage découvert, par exemple. C'est-à-dire que...
Voilà. Et d'ailleurs, les faucheurs, comme tu l'as dit, n'utilisent pas d'armes, puisqu'ils brisent les plants de maïs avec leurs mains.
Exactement. Et après, donc, il y a aussi une partie qui explique plus la désobéissance civile, comme on vient de l'expliquer. Et donc, du coup, pour revenir donc aux faucheurs en soi, donc le mouvement, il est assez connu, on n'a pas besoin de rester trop longtemps dessus. Et on va citer un peu l'exemple du procès des faucheurs où on a été.
Oui, parce que j'allais dire des désobéissances civiles pour les gens, mais pour la loi, il y a peut-être un petit souci quoi, par rapport justement à ces lois que... On se transcende, on passe outre finalement de ça, quoi.
Tout à fait, en fait. Donc avec les lois, ce qui se passe, c'est qu'on désobéit à la loi, et vu que c'est fait à visage découvert, vu que c'est des obéissances civiles, donc civile, c'est par rapport à la civiliste, donc la société, on pourrait dire en quelque sorte, en gros, ils subissent les conséquences juridiques de leurs actions. C'est un peu ce qui différencie un peu d'autres formes de désobéissance qu'on peut considérer comme civile, c'est un débat. Mais là, c'est clair, ils le font à visage découvert. Et donc là, par exemple, on a été au procès de 58 faucheurs d'OGM. Et du coup, voilà. Mais je laisserai Élise en parler parce que c'est elle qui va témoigner par rapport à ça.
Donc justement, on a fait des recherches approfondies pour voir ce qu'il se cachait derrière ce procès. Donc en fait, 58 faucheurs volontaires se sont rendus à Pointville, en Eure-et-Loire, le 18 août 2007, où ils ont neutralisé une parcelle d'essai de maïs génétiquement modifié, donc une parcelle d'essai de la firme Monsanto. Donc ceci a amené le 5 juin 2008 à ces 58 faucheurs devant le tribunal correctionnel de Versailles, tribunal qui les a relaxés, qui a également relaxé ceux d'entre eux qui avaient refusé le prélèvement de leur ADN durant la garde à vue. Et ce même tribunal a débouté Monsanto, qui s'était donc porté partie civile. Puisque ces expérimentations portent atteinte aux cultivateurs voisins qui, eux, ne veulent pas cultiver donc d'OGM. Donc le tribunal reconnaît ici cette action comme une action donc, sur le fondement de l'état de nécessité.
Alors, le fondement de l'état de nécessité, c'est-à-dire parce que là on rentre dans des termes techniques, là
exactement, on est dépassé. Je dirais même juridique, puisque l'état de nécessité, donc que les spécialistes codifient de l'article L122-7, en fait, dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Donc ici, les faucheurs ont agi par nécessité pour protéger l'environnement, la société, et le tribunal l'a reconnu. Seulement, Monsanto et le procureur ont fait appel de cette décision. Et donc là, on aboutit à 3 jours de procès. Donc tu peux nous rappeler un petit peu, Khaled, les dates
Donc les dates de procès, c'était le 18, 19, 20 novembre 2009, parce que là on est en 2010. Et c'était le mercredi, jeudi et le vendredi exactement.
Donc j'ai pu me faufiler dans le tribunal. Et lorsque j'étais malheureusement recalée, j'ai dû faire appel à des stratagèmes pour obtenir des informations précieuses. Donc le mercredi 18, c'est la journée où a eu lieu l'audition des prévenus. Le jeudi 19, donc sont passés à la barre les témoins. Donc Monsanto a fait appel à 2 exploitants agricoles au ministère, dont un voilà, de la FNSEA, un responsable au ministère de la surveillance des essais au moment des faits, et Yvette Daté, donc une scientifique, membre de la commission de génie biomoléculaire, dont il s'avère qu'elle aurait certaines affinités avec le milieu de la semence. Mais nous n'en dirons pas plus. Du côté des faucheurs volontaires, trois témoins ne se sont pas présentés. C'est M. Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet et M. Bussereau. Ils avaient fait appel aux scientifiques, M. Guyon, Serralini et Christian Vélo, qui ont montré que la dissémination inévitable était inévitable, donc dissémination des OGM pesticides en milieu non confiné, et donc on avait un risque de diminution de la biodiversité et une menace pour les cultures traditionnelles. Ils ont aussi montré qu'il y avait une absence de débat, une absence de débat et un manque d'évaluation au niveau sanitaire et environnemental, voilà, de ces essais. On a aussi témoigné un paysan de Catalogne, donc qui est producteur de maïs bio et qui a été contaminé. La sénatrice Marie-Christine Blandin a montré l'importance des lanceurs d'alerte et elle a aussi parlé un petit peu des travaux du Grenelle, de comment ça s'est passé le vote de la loi il y a quelque temps. On a eu aussi un membre des Amis de la Terre au niveau européen qui a fait un petit point sur ce que c'était. Bon, encore Aurélie Trouvé, une agronome. Un Guillaume Gamblin, membre du MAN, donc qui a parlé de la désobéissance civile.
Alors le MAN, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est le mouvement pour une alternative non violente. Tu veux en parler un petit peu, Khaled ? Voilà, donc c'est un mouvement qui promeut un peu la non-violence, la désobéissance civile, comme mode de régulation des conflits, notamment. Voilà. Et enfin, on avait Mathieu Bonduel, donc qui est du syndicat de la magistrature, qui a justement légitimé le refus d'ADN des 24 prévenus. Enfin, le dernier jour, le 20 novembre, donc ça a été la plaidoirie des avocats. Donc l'avocate de Monsanto a mis en avant le fait que les essais étaient conformes et elle a demandé pour réparation au préjudice moral et matériel 1 300 000 euros. Aux faucheurs.
Ni plus ni moins.
Ni plus ni moins.
Moi, je trouve que c'est pas beaucoup, franchement.
Et encore.
Ils auraient pu faire beaucoup plus, hein.
En première instance, elle avait seulement demandé 300 000. Là, ils ont rajouté 1 million d'euros.
Oui, c'est un problème de virgule, en fait, à ce moment-là.
Ah, ça doit être.
C'est vrai qu'ils ont une très mauvaise image. Hein. Je sais pas comment ils s'y prennent. Mais...
Et enfin, le procureur lui a demandé 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende pour chaque prévenu, 100 jours amende pour les 4 récidivistes et 300 euros d'amende pour ceux qui ont refusé l'ADN. Donc Khaled, toi tu étais dans le off, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé ?
Alors Élise était dans, vous a parlé du procès en soi, et donc j'étais dans le off, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'en fait à côté du procès, il y a eu un soutien populaire, on pourrait dire, et une information du peuple de Versailles, du moins. Et du coup, le 18 novembre, il y avait eu trois journées d'explications de ce que c'était les OGM. Donc le premier jour, c'était sur les OGM, l'actualité sur les OGM. Deuxième jour, donc le 19 novembre, c'était sur la relocalisation agricole et l'alimentation, comme alternative par rapport aux OGM. Et le troisième jour, c'était par rapport à la désobéissance civile et l'action non violente. Donc par rapport au premier jour, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu Anne Furet d'Info OGM et Michel Dupont, qui est assistant parlementaire européen, qui connaissent très bien la thématique des OGM, qui ont refait un petit point juridique là-dessus. Je ne vous donnerai pas les détails parce que sinon on ne va pas avoir le temps. Il y a eu une marche d'accompagnement à 13h, donc en gros où il y a eu 400 personnes selon les organisateurs et 200 selon les policiers. L'après-midi, il y a une personne donc d'Action Consommation qui est venue en parler avec les consommateurs qui luttent face aux OGM. C'était très intéressant parce qu'en fait, la personne d'Action Consommation a parlé un peu de la consommation en critiquant le consumérisme, ce qui était très intéressant parce qu'en consommation, on se dit « Oh là, c'est réducteur ». Et du coup, lui, il expliquait qu'en gros, c'était une forme d'avoir une bonne consommation et l'autre qui était un peu excessive. C'était très intéressant justement d'avoir ce point de vue d'une personne comme ça. Et après, le soir, il y a eu une conférence donc très sympa avec Christian Vélo, qui a parlé donc des OGM, des OGM cachés. J'ai oublié de dire, l'après-midi, il devait y avoir aussi une production de film, Pas de pays sans paysans. Mais en fait, l'endroit où c'était arrivé était en fait en gros squatté par des... à Versailles par des sans-papiers qui ont fait une conférence à ce moment-là pour expliquer pourquoi ils étaient là, et c'était vraiment très touchant, et le mouvement des faucheurs et les personnes des citoyens qui étaient là ont été solidaires des sans-papiers qui étaient présents pour essayer donc de régler leur situation. Le soir, donc, il y a eu une conférence sur les OGM avec Christian Vélo, et comme je vous dis, vu qu'on a été subventionné par Random Ready, on a quelques extraits à vous faire passer sur Christian Vélo là-dessus.
Et c'est pour ça que, à mon avis, je pense qu'il faut s'attaquer au dénominateur commun de tout cela, dénominateur commun au pluriel, de tout, c'est-à-dire s'attaquer à tout ce qu'il y a de commun entre toutes ces technologies pour pouvoir d'un coup d'un seul les combattre toutes. Alors c'est facile à dire derrière un micro, c'est beaucoup moins facile à faire, mais il y a des angles d'attaque. L'un des angles d'attaque, parce que c'est l'un des dénominateurs communs, c'est la dérive techno-scientifique, c'est-à-dire... le fait que la science ne remplit plus sa mission première d'acquérir et de diffuser des connaissances. Vous savez, en biologie, on ne cherche plus à comprendre le vivant, on cherche à le maîtriser. Et ça, c'est le résultat de 25 années de politique du gribouille en matière de recherche. On parle beaucoup aujourd'hui de Sarkozy et de Pécresse. Hein, on ne parle plus de Fillon, parce que c'est le premier emploi fictif de France, mais Sarkozy et Pécresse, on en parle beaucoup en matière de recherche, pas seulement qu'en matière de recherche, hein, le petit Nicolas, on en parle partout, mais en matière de recherche, on parle beaucoup du couple Sarkozy-Pécresse, mais en fait, ils ne font qu'enfoncer le clou, ils ne font que finir d'enfoncer le clou, le terrain qui leur a été préparé depuis 25 ans par les gouvernements successifs qui se sont déresponsabilisés en matière de recherche pour laisser la mission de recherche publique, eh bien, à l'industrie, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien de public. Hein. Et donc, évidemment, le problème, c'est que l'industrie, elle a besoin de retours sur investissement rapide. Et pour avoir des retours sur investissement rapide, et pour protéger, pour assurer ses profits, il faut déposer des brevets. Et comment on met des brevets sur le vivant, puisqu'il s'agit de biologie ? Ben, on met des brevets sur les vivants en travaillant sur les molécules considérées comme les molécules maîtresses du vivant. C'est-à-dire les gènes. Ce qui est complètement crétin.
Le nucléaire, qu'est-ce qu'il a ?
Alors,
justement. J'ai beaucoup aimé sa réflexion sur le petit Nicolas, parce que je ne sais pas si vous en rappelez la dernière émission qu'on a faite. Justement, on avait une lettre du petit Nicolas. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu un rapport justement à ça. Mais allez, je te laisse la parole.
Alors, justement, c'était un petit clin d'œil au petit Nicolas qui nous avait écrit la dernière fois. D'ailleurs, on en reparlera au quatrième jeudi du mois par rapport à Flopenac, mais bon, c'est autre chose. Donc, Christian Vélo, donc, qui est biologiste, et donc, il explique là clairement que lui, il travaille sur les OGM, mais en gros, la privatisation de la recherche amène à ce que les OGM ne deviennent pas, en fait, un moyen, par exemple, pour les médicaments ou autre chose, mais une fin en soi pour la rentabilité, pour l'argent. Et du coup, il y a vraiment une déviation qui fait que, quand il y a de la recherche en plein champ, bah, on ne fait pas attention à certaines choses. Donc, il y a aussi eu Guy Kessler. Donc, du coup, là, on avait prévu de passer quelques audios de Guy Kessler, mais on n'aura pas le temps. Le deuxième jour, c'est sur la relocalisation alimentaire. Donc là, il y a eu des ateliers le matin. On en reparlera plutôt en deuxième partie d'émission. Et il y a eu Aurélie Trouvé et Serge Latouche qui ont aussi pas mal parlé de ces choses-là de façon très intéressante. Le troisième jour sur la désobéissance civile et les résistances. Donc là, il y a eu Jean-Baptiste Liboubon dont je vous ai parlé tout à l'heure, Guillaume Gamblin dont Élise a parlé tout à l'heure, qui ont fait une conférence publique. L'après-midi, c'était aussi d'autres désobéissants en dehors donc, des faucheurs, comme Christian Lévili et Jean-Baptiste Liboubon Jean-Baptiste Hérault et un membre du collectif des faucheurs volontaires d'OGM. Et le soir, donc, il y a eu des concerts. Élise, tu pourras nous en parler.
Voilà, on a pu voir trois groupes, nous, Guillaume tout seul et Loulou Green. On a remarqué aussi que tout le monde mangeait bio pour pas cher. Il y avait une ambiance assez conviviale, donc ça s'est bien passé. Pour les gens qui étaient présents. Et ce qu'on a pu entendre, c'est que donc, le verdict sera rendu le 22 janvier à 14h à la cour d'appel de Versailles. Voilà.
Bien, bien. Merci pour tout ce retour sur ce procès de trois jours. Donc je pense que Brandon Whaley sera très heureux de votre reportage. Et donc là, on va vous laisser toujours sur la thématique des OGM. On va vous laisser avec la chanson du dimanche et OG Man.
Attention, ça vient.
3, 2, 1, 0, 4. 1, 2, 3, 12, 20, 50.
On peut la chanter. OG Man, OG Man, man, OG Man,
c'est cool. Il fait chaud ici.
Des hommes qui ne meurent pas non plus, tu fais des gosses qui ne pleurent pas.
Tu fais du feu qui ne brûle pas, tu fais des vieux qui ne sentent pas.
Tu fais des jeunes qui ne boivent pas,
tu fais quelques erreurs parfois. OG Man, 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 OG Man au secours. Ils ont fait des carottes qui s'épluchent à la main plus vite que des bananes. OG Man, 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 OG Man au secours. Ils ont fait des brugnons avec du sopalin plié dans le noyau. Ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos. Avec du ketchup dedans, avec du ketchup dedans. Wow, OG Man, 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 wow, OG Man.
Tu fais des œufs en chocolat, tu fais des canards au foie gras. Tu fais des phoques avec des poches et des moutons en laine velcro.
Tu fais du porc à l'alcachère, des crocodiles en bandoulière.
Tu fais des requins tournevis,
tu fais des vaches qui font la bière. OG Man, 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 OG Man au secours. Ils ont fait des carottes qui s'épluchent à la main plus vite que des bananes. Ils ont fait des brugnons, avec du sopalin plié dans le noyau. Ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos. Avec du ketchup dedans, avec du ketchup dedans. Wow, OG Man, 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 wow, OG Man.
Venu d'une lointaine galaxie, OG Man a traversé tout l'univers pour sauver la planète bleue d'une mutation légumineuse. OG Man défiera tous les méchants pour faire revivre les germes, le mildiou, les fongiques, les doryphores, la gangrène, la phytophthora.
OG Man, wow, 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 OG Man.
Salut, salut, oui, vous êtes toujours sur Zoom Écologie, Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc, après les OGM, on va donc continuer sur l'alimentation avec des choses un peu plus régalantes. On va parler de la relocalisation alimentaire ou encore de l'autonomie, souveraineté alimentaire. Donc, c'est un sujet qui est cher à beaucoup d'associations, beaucoup d'individus et à tous les bons mangeurs en tout cas. Donc, avec Flo, on va parler de la nouvelle colonisation agricole. Donc c'est un phénomène assez récent, mais néanmoins inquiétant. Flo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question-là ?
Bah écoute, alors ça tombe bien parce que moi je suis un gros mangeur. Et alors c'est un peu, on va l'appeler le colonialisme new look. C'est comme ça que je l'ai trouvé en fait sur un article écrit par nos journalistes amis russes. Et justement, alors en fait, c'est plus précisément, c'est un dossier qui est paru en novembre de l'année dernière, hein, 2009, sur le Courrier International, justement, sur la razzia, en fait, des pays riches sur les terres agricoles, en fait, des pays du Sud. Alors, c'est assez intéressant, en fait, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que les pays riches, on va voir que c'est pas forcément ceux qu'on sous-entend dans un premier temps, et puis les pays du Sud, bon, par contre, pour le coup, c'est toujours les mêmes. Hein. Mais voilà, alors pour vous recontextualiser un petit peu la thématique...
C'est toujours les mêmes qui se font entuber, quoi, en gros.
C'est ça, et c'est pays, pas toujours les mêmes, les accapareurs, on va les appeler comme ça. Donc voilà, en fait, le phénomène là, que je vous expliquais un petit peu, c'est justement quelque chose qui se passe depuis déjà une bonne décennie, c'est l'achat, en fait, de certains pays, alors notamment les principaux pays, c'est la Chine, la Corée du Sud et les pays des Émirats, notamment l'Arabie Saoudite, qui achètent en fait des terres agricoles en fait dans les pays du Sud. Alors les pays du Sud, ça va aller vite, hein, c'est l'Afrique en gros, et notamment l'Asie du Sud-Est. Et donc, pour vous donner un petit peu l'ampleur en fait du phénomène qui existe, c'est sur ces trois dernières années en fait, dans un article, il précise bien que c'est l'équivalent de 30 millions d'hectares de terres agricoles achetées en fait, par ces pays, c'est l'équivalent en fait, de la surface des Philippines. Bon, en même temps, si vous n'êtes pas allé aux Philippines, ça ne vous parle pas, peut-être pas beaucoup.
Non, pas
30 millions d'hectares, par contre, ça peut parler. Donc, l'idée, en fait, justement, de ce phénomène, c'est un deal en fait, entre deux parties. Entre le pays riche, voilà, je les ai cités, le pays pauvre, le pays du Sud, qui achète en fait, des terres agricoles. Et l'intérêt, en fait, pour les pays... Les pays qui investissent là-dedans, c'est de garantir en fait leur souveraineté alimentaire. Donc c'est des pays assez petits, comme la Corée du Sud. Corée du Sud, pour donner un exemple, je vois Khaled qui fait un rictus. Par exemple, c'est 1% en fait de leur production de maïs et de blé. C'est-à-dire que il y a 99% du blé de maïs du Corée qui doivent aller chercher ailleurs. Donc voilà, la Corée du Sud, c'est typiquement un pays en fait qui a besoin d'acheter des terres agricoles, justement. Et l'intérêt, finalement, pour les pays loueurs, en tout cas sur le papier, c'est finalement les capitaux, c'est un savoir-faire, c'est des emplois, notamment dans des régions qui ne sont pas forcément développées. Donc, sur le papier, on va dire, c'est tout bénef. À manger pour certains, du boulot pour les autres, voilà. Sauf que, il s'avère que dans certains pays, alors on va prendre le cas de la Chine, il y a une véritable stratégie commerciale en fait pour l'achat de ces terres. Notamment, c'est le comité central qui a déclaré notamment une de ses lois, sortir l'agriculture de ses frontières en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir une politique d'investissement très très importante en fait sur ces entreprises à l'étranger pour qu'elles achètent des terres et qu'elles gèrent de manière autonome en fait la production alimentaire. Alors pour la Chine, c'est notamment les pays comme la Russie. Il y a même certains zones limitrophes de la Russie qui sont même considérées comme la Chine du Nord, hein, pratiquement. C'est l'Asie du Sud-Est avec le Laos, où c'est l'équivalent de 70 000 km² qui sont achetés. Et puis c'est encore et toujours les Africains qui sont achetés à hauteur de 1,3 million d'hectares, ne serait-ce que pour le Mozambique, par exemple, qui est en négociation. Donc, il y a un cas assez intéressant parce que tout de suite, on imagine forcément le maïs, on imagine le soja, mais c'est également, par exemple, la pêche. Par exemple, en 2007, il y a à peu près l'équivalent de 1500 bateaux qui sont allés pêcher en Afrique de l'Ouest, en Argentine, aux Fidji. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est des pays qui ne sont pas forcément cités dans les pays du Sud. Hein, je pense à l'Argentine et qui sont assez exploités, en tout cas, en niveau agricole, de manière large, puisque je mets la pêche, en fait, dedans.
D'ailleurs, l'Argentine qui est l'un des premiers producteurs d'OGM au monde aussi.
Ah, ça tombe bien.
Par rapport à l'agriculture aussi.
Tout se recoupe. Donc, je ne sais pas quelle est l'implication finalement de la Chine.
D'ailleurs, on pourrait dire qu'il n'y a pas qu'au niveau agricole ou au niveau alimentaire, il y a aussi au niveau des terres. Les agences immobilières aussi achètent des terres dans les pays du Sud. C'est une forme de colonisation aussi. Et au niveau alimentaire, moi, ça me fait penser un peu à cette histoire de relocalisation aussi alimentaire dont on a parlé au procès, où en gros, en fait, finalement, c'est les paysans qui sont environ presque 1 milliard maintenant à mourir de faim dans le monde, alors que c'est eux-mêmes qui produisent l'alimentation. Donc finalement, l'alimentation qu'ils produisent ne leur appartient plus vraiment.
Oui, parce qu'en fait, c'est un peu notamment la stratégie de la Chine, c'est de remonter la filière, en fait. C'est qu'ils ne se contentent pas notamment de produire la denrée alimentaire, la matière première, c'est aussi de remonter la chaîne alimentaire. Je pense notamment au lait, ou alors ils achètent des usines, justement, de production de dérivés des produits laitiers. Donc, c'est assez intéressant, on va dire. Stratégiquement, l'idée, c'est quand même de s'accaparer quand même de manière assez autonome et de gérer de manière autonome, justement, la production et le réseau alimentaire, quoi.
Ouais, c'est une certaine forme d'autonomie, mais bon, enfin, disons que ça nous fait quand même gerber. Il ne faut quand même pas non plus se tromper de stratégie, de combat et de réalité, quoi.
Non, mais je me mets du côté des capitalistes, hein, bien sûr. Ouais, attendez,
le vilain.
Faut bien face à tous.
Bon, on va le passer par la fenêtre, je crois.
Donc voilà, il y a des petites phrases qui sont assez intéressantes, justement. Il y a Jacques Diouf, qui est le directeur de la FAO, hein, donc la FAO qui est
la FAO,
Agriculture and Food Organization, voilà, et qui parle vraiment d'un pacte néocolonialiste, hein. Donc on est vraiment sur des termes qui sont quand même très très forts. Je vous parlais justement du colonialisme New Look, les journalistes russes aiment bien, parce que alors les Russes subissent finalement en fait cette forme de colonialisme, étonnamment, hein, eux qui ont été quand même sur des volontés aussi très expansionnistes. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc voilà, quels sont les risques, hein, pour les pays loueurs? C'est évidemment les paysans qui craignent l'expulsion, puisque les États ont tendance à s'approprier, disons, la manne financière et à expulser en fait les paysans. C'est également une aggravation finalement de la faim, puisqu'on s'accapare les terres fertiles. Donc là, les paysans sont perdants à tous les coups, hein, notamment je pense à l'Afrique, mais aussi de manière environnementale, puisqu'on est quand même sur un sujet quand même on est sur une émission très axée environnement. C'est une pression sur la ressource eau très très forte. Pourquoi ? Parce que en fait, les sociétés qui viennent, elles sont dans une visée quand même d'intensification de l'agriculture, à une visée d'export et de commercial quand même très très fort, hein, parce qu'on est sur du soja pour l'alimentation animale, sur de l'EVA pour produire du caoutchouc, etc. Donc on est sur des choses quand même purement pécuniaires. Et notamment, je vais vous donner l'exemple, alors je vais vous en donner un pour aller vite, l'exemple notamment de Madagascar. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les mouvements qu'il y a eu autour du président Marc. Alors je vais le lire parce que c'est Ravalomanana. Donc notamment qui a été destitué, enfin il y a eu des troubles et puis il a été destitué de son poste suite justement à une proposition de la Corée du Sud et de son consortium Daewoo, en fait, qui proposait d'acheter sur un bail de 99 ans, 1,3 million d'hectares de terre pour produire du maïs. Donc ça a mis tellement de troubles dans le pays qu'il y a eu destitution carrément du président Marc Ravalomanana.
C'était pour l'autonomie alimentaire qu'il avait fait ça, bien sûr.
Bah, c'est la Corée du Sud en fait qui incite fortement ses entreprises en fait à aller investir à l'étranger. Voilà, donc c'est l'autonomie alimentaire de manière élargie. C'est la Corée du Sud. Ils sont loin de chez eux là.
L'autonomie énergétique pour nucléaire.
C'est pareil, sauf que bon, là pour le coup on peut pas produire sur place, hein. C'est dommage. L'alimentation ça marche bien, on met sur un bateau, ça part. Donc voilà un petit peu, et puis sans citer effectivement la problématique aussi de l'Indonésie et notamment de des populations autochtones des Papous, hein, qui en fait subissent le défrichage notamment de pays d'Arabie Saoudite et notamment un consortium, alors c'est le consortium Ben Laden, hein, c'est véridique, c'est ce qui est marqué dans l'article du Courrier International, et qui avait investi environ 2,5 millions d'euros justement dans le défrichage de forêts en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour faire de la riziculture ou de l'huile de palme. Alors 2,3 millions, c'est 2,5 millions, c'est l'équivalent de la moitié du déficit de l'État en fait d'Indonésie, donc pour vous donner un petit peu l'ampleur en fait de l'investissement. Donc voilà, et tout ça, c'est sans parler effectivement des problématiques de hausse alimentaire. Pour vous donner juste un chiffre, l'OCDE et la FAO estiment en fait que l'augmentation des prix des denrées alimentaires va être en moyenne de 50% entre 2007 et 2017. Donc voilà, donc on est un peu sur des problématiques qui sont assez complexes. Et je finirai finalement un peu sur une dernière phrase qui est de Mark Twain, qui disait « Acheter des terres, on n'en fabrique plus ». Donc voilà, donc Clément avait un petit quelque chose à rajouter justement. Alors on est plus sur la vision régionale de l'affaire, mais en tout cas c'est quelque chose qui se rapproche assez sur la thématique justement, Clément.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est plutôt le contre-pied. Alors ça va être un peu dur après cette phrase philosophique d'enchaîner.
C'est Mark Twain, hein, c'est pas Florian.
Tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on voit les limites donc du développement à l'occidental avec donc toutes les contradictions que ça pose, et puis à force de bétonner des terres, par exemple en Corée du Sud ou en Chine ou même peut-être en Europe ou en Amérique du Nord, ça oblige à finalement, enfin, après il y a toute une stratégie de productivisme derrière et de rentabilité. Mais donc du coup, ça oblige à aller acheter des terres à l'autre bout du monde, qui sont quand même achetées. Hein. Le colonialisme a fait des progrès, parce qu'à certaines époques, ils ne s'embêtaient pas trop avec l'argent. Quoi. C'était directement en réquisition.
Bah là, on est sur des bails qui vont minimum de 40 ans à 99 ans pour le cas du Madagascar. Donc on est sur des choses qui sont tellement... incommensurable, s'il fallait citer.
Ouais, ça reste à peine masqué, mais c'est vrai que bon, ça reste quand même répugnant dans la pratique, et surtout dans les conséquences que ça peut provoquer. Et donc à l'inverse, donc je parlais de contre-pied par rapport à cette politique néocolonialiste. Donc il y a un appel dont je vais vous parler brièvement, qui est l'appel Alimentons les régions, donc qui a été initié par Minga, qui est un réseau on va dire pour une économie plus équitable, l'association Nature et Progrès, qui œuvre dans l'agrobiologie depuis des décennies, et aussi l'association Frères des Hommes, qui travaille avec les pays du Sud, notamment pour le développement d'agriculture paysanne, pour éradiquer la faim dans les pays du Sud. Et donc ces trois associations ont lancé l'appel Alimentons les régions, donc entre autres dans la perspective des élections régionales. Bon, on va pas trop vous parler d'élections, mais ça fait aussi écho à un autre appel qui était Alimentons l'Europe l'année dernière en 2009. Et donc le but, c'est de monter, de mettre la pression sur les différentes organisations politiques qui vont nous servir beaucoup de beaux discours sur l'alimentaire notamment. Et c'est de rappeler quand même que il n'y a pas que la politique dominante qui peut être une perspective, et ça on en est certain, mais que l'alimentaire, bah, c'est quand même une question essentielle, qu'il y a encore des milliards d'hommes sur Terre qui n'ont pas suffisamment à manger, et que c'est pas une question complètement superflue, même en Europe, même en France, et que vraiment c'est les paysans qui nous nourrissent, et que c'est important de partout avoir une autonomie alimentaire, donc notamment pour construire une solidarité locale, nationale, internationale, et que chacun puisse bouffer à sa faim et boire à sa soif aussi. Bon, même si l'eau aussi, bon, c'est un peu moins complexe d'un point de vue agricole, mais il y a aussi cette problématique qui est réelle dans pas mal de régions.
Bah, après, quand on parle justement, hein, genre dans l'article, on précise, c'est vrai qu'on a tendance à négliger aussi la ressource en eau, mais c'est vraiment là, on est sur une problématique qui est quand même vachement plus large, c'est-à-dire qu'on est sur une problématique, alors peut-être pas au niveau de la France, mais quoique on pourra en parler, mais sur justement la ressource en eau, mais aussi la ressource des terres, parce qu'on est sur des niveaux d'érosion et de pollution importants. Il ne faut pas négliger aussi l'eau, la pollution, l'érosion des sols, qui impacte de manière très très forte, en tout cas les pays à l'étranger, quoi.
Non, enfin, c'était pas pour négliger ça. C'est vrai qu'on pourrait parler d'aliments.
Je fais le capitalisme.
D'alimentation, d'autonomie alimentaire, pardon, et puis aussi d'autonomie pour tous les besoins de base, notamment boire. Pas que de l'eau d'ailleurs, enfin bon bref, au moins l'eau c'est l'essentiel, et aussi cet appel Alimentons les régions, donc c'est un contre-pied aussi pour la politique de grande surface, soutenir le commerce de proximité indépendant, etc. Bon, je vais pas vous le lire en entier parce qu'on n'a pas le temps, je vais juste vous donner l'adresse internet pour aller consulter cet appel et le signer si vous le souhaitez, www.alimentons-les-régions.fr. Voilà, après il y a des contacts régionaux que vous pourrez retrouver pour organiser des actions jusqu'au régional, etc. Bon, on clôt ce paragraphe alimentation. Non, Ralette veut rajouter quelque chose.
Oui, peut-être. Je vais rajouter quelque chose en fait, vu que j'ai vécu la deuxième journée donc, de soutien aux faucheurs volontaires. En fait, c'est qu'il y a vraiment des thématiques très intéressantes qui ont été développées pendant ces journées, notamment. Surtout en Île-de-France, où on est au niveau agricole, alimentaire et local, on pourrait dire, plus, l'une des régions les plus sinistrées. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'agriculture paysanne locale. Et je vous invite vraiment à aller sur le site de Divine Sans OGM pour écouter les conférences, comme l'un des extraits que je vous ai donné, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et moi, ça me fait penser aussi à quelque chose. En fait, j'avais été une fois avec une nana du NAMAP qui avait parlé, et qui avait parlé aussi par rapport aux pays du Sud, qui disait que relocaliser, c'était une solution aussi bien pour l'autonomie alimentaire des pays du Nord que ceux des pays du Sud. Et qu'en fait, en quelque sorte, avec la mondialisation, sans parler des problèmes de pollution et de ça, on mangeait un peu la biodiversité des pays du Sud. C'est-à-dire qu'on ramenait la biodiversité, les richesses des pays du Sud vers les pays du Nord pour les manger, d'où la relocalisation est vraiment une solution très importante. Voilà.
Ouais, et puis quand c'est de la biodiversité, souvent c'est qu'on annule la biodiversité locale pour imposer des monocultures, bien souvent. Enfin, c'est dramatique. Mais je pense qu'on aura l'occasion de refaire une émission sur l'alimentation pour approfondir cette question-là. Pour rester un peu sur la thématique agricole, je vous propose de rejoindre Ridan avec l'agriculteur.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Thank you.
Merci Ridan d'être venu en direct chanter ta chanson.
Bravo Ridan. Oh. Bravo.
Merci.
Donc on enchaîne directement avec un dessert qui vient tout droit de la ligne 9 et la ligne 10, Boulogne, le dessert déboulonné avec un agenda présenté par Élise, Khaled, Clément. Allez, on enchaîne, qui c'est le premier, Khaled?
Oui, alors moi, avant d'enchaîner sur Boulogne et les déboulonneurs, je reviens encore sur Versailles et les faucheurs parce que...
T'es obsédé par Versailles et
par ça.
Et par les OGM.
Et par les OGM, j'avoue que j'en fais des cauchemars et des rêves tous les soirs.
On va l'interdire d'OGM à la prochaine émission.
Ok, je suis partant.
Je fais remarquer que cette fois-ci, on n'a pas parlé d'énergie et de climat, donc c'est pas mal, on s'est un peu limité. Ouais. Donc prochaine fois... Pas d'OGM.
Enfin, du coup, on a perdu notre pari parce que là, tu viens de parler d'énergie.
Hein. Bon, on va arrêter là. Hein. Merde.
Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, en gros, en fait, on vous a parlé de procès des faucheurs tout à l'heure, mais le jugement n'a pas été rendu tout de suite. Donc, du coup, en fait, il faut savoir que le 22 janvier, il va y avoir le délibéré qui aura lieu donc, à Versailles à 14h et l'association Evin sans OGM donc, qui organise le soutien pour les relaxés de Chartres, mais qui vont peut-être ou non se faire condamner en fait. En gros, à l'appel de Versailles. En gros, ça a quand même des enjeux assez immenses parce qu'à Chartres, il y a eu une reconnaissance d'état de nécessité. Et donc, si à Versailles, il y en a aussi un appel, ce qui reste d'être une première, ça sera une victoire pour tous les désobéissants, tous les acteurs de désobéissance civile. Et donc, pour ça, ils ont besoin de soutien parce que s'ils se font condamner, il n'y aura pas une reconnaissance de cette forme de mobilisation démocratique, on pourrait dire. Rendez-vous donc à Versailles devant la cour d'appel le 22 janvier à 12h30.
Donc on poursuit dans la désobéissance civile avec l'action des déboulonneurs. Donc il y a un collectif anti-publicitaire. Donc leur prochaine action aura lieu le samedi 23 janvier. Donc vous pouvez venir à 15h. Le rendez-vous est au métro Rivoli. Je crois que c'est ça. Donc il n'y a aucun risque pour les spectateurs, donc vous pouvez assister donc au barbouillage. Donc en fait il y a un groupe de personnes qui vont écrire des messages symboliques sur des panneaux publicitaires, voilà, pour susciter le débat et puis et agir contre la publicité. Donc d'ailleurs Clément, tu voulais nous parler aussi un petit peu de publicité.
Oui, dans la désobéissance civile, là juste l'actualité, il y a un bouquin qui est sorti, qui a été écrit par le collectif Les Désobéissants, aux éditions Le Passager Clandestin, qui s'appelle « Désobéir à la pub ». Bon voilà, ça coûte 5€, c'est sympa, c'est vite lu, et puis il y a plein d'infos, donc c'est une collection assez sympa. Il y a aussi « Désobéir par rapport à la politique des sans-papiers », dans la même collection.
Et donc le week-end des 22, 23 et 24 janvier aura lieu au CIP, donc c'est à la coordination des intermittents et précaires, à Paris, rue Voltaire, une exposition d'affiches subversives, donc notamment qui remettent en question le système et la place de la publicité dans la société, avec des concerts, etc. Donc vous pouvez retrouver les informations sur le site demosphère.eu.
Voilà. Alors justement sur des questions de remise en question de la société, alors on va pas terminer parce que l'idée c'est de terminer aussi sur une note assez joyeuse, mais il me semble que là on va faire un petit hommage en fait à quelqu'un de particulièrement impliqué finalement dans le mouvement de l'anti-publicité finalement de l'écologie. Khaled, tu nous parles un petit peu de David Sterboul.
Donc oui, David Sterboul, donc, qui est l'un des membres fondateurs du collectif des déboulonneurs, donc est décédé en novembre, il n'y a pas si longtemps. Ça a attristé pas mal de milieux militants, surtout qu'il est c'est un très bon militant. Mais du coup, on a décidé de vous lire quelques parties d'un hommage qui a été écrit, qui est sur le site des déboulonneurs, vous pouvez consulter. Donc voilà, alors David Sterboul, donc c'est le titre, militant radical, sensible et charismatique. Et donc c'est parti. Il y a des héros que l'on pleure froidement, le poing levé, le drapeau en berne. Il en est d'autres que l'on pleure de toutes les larmes de son corps, parce qu'on les aime autant qu'on les admire. David Sterboul, né en 1976 et décédé en 2009, en est un. Pourquoi ce déchaînement de tristesse violente? Depuis l'annonce de sa mort brutale, pourquoi ces gorges qui se nouent tout, à tout moment de la journée? Pourquoi ces cris ce cri de ses amis, cri de révolte, à l'idée de ce militant sublime. Idéalisons-le sans vergogne, ça fait du bien et ça fait sens. Chutant ce 15 novembre du haut de son 9e étage parisien et devenant subitement transmué par la mort, le plus grand d'entre nous.
Quels que fussent ces fronts de lutte, l'écologie politique, avec Chiche, la vélorussion, le nucléaire, les OGM, la vaccination, le féminisme, l'autogestion, les Jeux olympiques, les traînées chimiques du ciel, les brûles-cerveaux, c'est-à-dire les téléphones portables. David avait jeté les bases d'un pamphlet sur le sujet. Et surtout, l'anti-publicité, son principal combat de ces dernières années, avec le collectif des déboulonneurs, résistance à l'agression publicitaire et le publiphobe. Cet écologiste profond, comme il se définissait, a incarné des attitudes exemplaires et mémorables. Intégrité, courage, détermination, rigueur, intelligence, non-violence, respect, par exemple à l'égard des policiers. Autant d'atouts qui ont fait de cet éternel serviteur des causes le guide qu'il ne voulait pas être, un éveilleur de conscience malgré lui. Cet échalas au nez aquilin et au physique de sage indien inspirait confiance par son calme et sa profondeur, suscitait l'amitié par sa bienveillance et son désintéressement.
Mais David n'a sans doute jamais autant donné sa mesure que dans l'anti-publicité, se distinguant aussi bien dans les déversements massifs de prospectus que dans le barbouillage de panneaux publicitaires dans un esprit de désobéissance civile, ou dans un procès contre de nouveaux panneaux publicitaires espions du métro. Les millions d'usagers sauront-ils jamais que c'est grâce à lui que ces écrans animés qui devaient envahir les couloirs en 2009 ne l'ont pas fait ? Le mystérieux groupe Ralapub, qui avait fin 2008 barbouillé clandestinement les quatre premiers spécimens, 8 jours après leur inauguration en grande pompe, c'était lui. Toute la presse en avait parlé.
Autre procès important dans la vie de ce publiphobe hors pair, subi celui-là, bien que désiré, la correctionnelle pour barbouillage en compagnie de 6 autres. Déboulonneur, inoubliable David, tremblant d'émotion et vacillant sur ses longues pattes de poulain effarées, justifiant son acte en face de la juge et devant une salle comble par l'évocation de l'horreur répandue massivement dans l'esprit par certaines affiches de cinéma, mais avec tous les dégâts psychiques qui s'ensuivent. Éveilleur de conscience, il fut cinéma avec tous les dégâts psy... Alors excusez-moi, alors je me suis trompé de ligne. Éveilleur de conscience, il le fut sans doute ce jour-là plus que jamais. Et le verdict, 1 euro symbolique, montra plus tard que la juge n'avait pu que s'incliner devant l'insurrection digne, ferme et légitime des 7 dissidents.
Pour David, ancien élève d'école de commerce reconverti en photographe professionnel, reportages appréciés par la presse militante, tels que Silence, Politis et d'autres, en quête de vérité et de simplicité, l'objectif utopique et révolutionnaire de son propre aveu était de faire tomber le système marchand technicien productiviste dont la publicité était à ses yeux la clé de voûte. Ce réseau militant qui ne plia jamais a fini par rompre avant de voir le système tomber. Ça a été écrit par Yvan Gradis, donc écrivain, publiphobe et barbouilleur, le 19 novembre 2009. Donc David, que nous connaissions, enfin que certains connaissaient d'entre nous, vu tout ce qu'il a fait. Pour lui rendre hommage, comme quoi, enfin, on peut être aussi sérieux dans la bande à Weber. Nous allons donc chanter la chanson Le Barbouilleur, écrite encore par Yvan Gradis. Enfin, donc on va, comme quoi, David, bah pourtant on est prêt à se taper la honte parce qu'on ne sait pas chanter, mais
c'est la bande à Weber, voilà, c'est l'humiliation en direct. Hein.
Donc ouais, on n'a pas honte.
Allez, 1, 2, 3, 4.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. J'en ai assez de voir l'horreur publicitaire des corps totalitaires du matin jusqu'au soir. Monsieur le Président, je ne supporte plus ces photos qui polluent la vue de tous les gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais barbouiller. La manipulation
à des fins mercantiles, livre toute la ville à la putréfaction. Au nom de la beauté, contre le racolage, vive le sabotage pour notre liberté.
Face à ces mises annonces, sachez-vous les gendarmes, que j'aurai pour seule arme légitime réponse.
C'est fini. Voilà, merci.
Excusez-nous encore.
Excusez-nous. Ouais, merci pour les applaudissements derrière l'aquarium. Alors,
demain, avis de tempête. Hein.
Attention. En tout cas, bah, comme quoi, on peut être sérieux et se marrer en même temps. Sur ce.
Eh ben, comme on dit, la bande à Weber. Hein.
Salutations écologiques et solidaires.
Thank you.